France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Populisme, dernier épisode, maladie inévitable de la démocratie libérale. Y a-t-il un vaccin ?
On pense parfois que les parasites, ce sont les mendiants dans les rues ou les prostituées sur les trottoirs. Eh bien non, ce qu'il faut vraiment dégager, ce sont nos parlementaires.
Je suis un Gaulois et comme les Gaulois, je ne crains rien d'autre que le ciel ne me tombe sur la tête.
Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien.
Le peuple a-t-il toujours raison ? Si c'est pas lui, qui a toujours raison ? Le vrai mot fourre-tout, c'est élite. Qui est une élite ?
On n'a pas besoin d'un grand représentant qui parle à un peuple muet. Non, le peuple n'est pas muet et il n'a pas besoin de tribun.
Le populisme qui vient, ça semble une vague irrépressible. Chaque événement de l'actualité, la perte de prise des gouvernants sur le cours des choses, la crise de la représentation, la chute de la confiance mutuelle, l'espèce de colère ambiante, la polarisation des débats, tout semble concourir à ce que nous n'y coupions pas. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la réalité de cette menace et à ses ressorts. Et pour commencer, nous allons retrouver Gérald Bronner, sociologue, professeur à l'Université de Paris Cité, membre de l'Académie des technologies. Qu'est-ce qui, dans l'écosystème médiatique composé aussi des réseaux sociaux envahissants, qu'est-ce qui fait prospérer le populisme ou au contraire peut le contenir ?
Les mécanismes argumentatifs du populisme tiennent à deux choses. Premièrement, ce que j'ai proposé d'appeler la démagogie cognitive, c'est-à-dire des formes de raisonnement qui vont dans le sens de nos attentes spontanées. Par exemple, la figure de Donald Trump, dont personne ne doute qu'il est une figure du populisme contemporain, et qui dit, par exemple, lors d'un hiver particulièrement rigoureux aux États-Unis, « Ah ben, il a fait très froid, alors cette histoire de réchauffement climatique, vous voyez, ce genre de truc intuitif comme ça qui n'ont absolument aucun sens scientifiquement, ou à l'occasion... »
Au fond de la météo et le climat, c'est, voilà, c'est classique.
Voilà, un segment très, très bref temporellement pour en déduire hyperboliquement voilà, une réflexion sur le climat, ce qui est absurde d'un point de vue scientifique, ou prenez le même homme, lorsque il y a eu la pandémie et que l'hydroxychloroquine, qui a été bien connue en France, s'est proposée comme solution thérapeutique. Il a dit, je le cite quasiment de mémoire, « Je la sens bien, cette molécule. Je suis un type intelligent, je ne suis pas spécialiste, mais je la sens bien. Bah, » c'est un appel direct à l'intuition. Et à ce type de raisonnement qu'on retrouve, par exemple, à l'époque au Front National, tant de millions d'émigrés, tant de millions de chômeurs. Donc, le fait d'établir une corrélation comme une causalité, hein, c'est-à-dire ces millions de chômeurs sont dus, bien ça, c'est une forme de démagogie cognitive, c'est-à-dire qu'on va aller parler directement aux intuitions du cerveau, même lorsqu'elles sont trompeuses.
Et on a besoin des réseaux sociaux pour ça ?
On n'a pas besoin des réseaux sociaux pour
oui,
ça, malheureusement.
Ça existait bien avant. Voilà.
L'histoire a montré que ce type de proposition argumentative, elle trouvait sa demande d'une certaine façon facilement, mais elle la trouve d'autant plus facilement que le marché de l'information est fluidifié et qu'il y a une fluidification entre l'offre et la demande. C'est pour ça que ces leaders populistes d'aujourd'hui, que j'appelle plutôt néo-populistes précisément parce qu'ils se servent des outils numériques pour communiquer, ben, trouvent facilement leur demande et qu'ils utilisent Twitter pour parler de Donald Trump, par exemple, ou Bolsonaro, les chaînes WhatsApp, ou prenez Beppe Grillo, qui est une des premières figures émergentes, qui est d'abord émergée sur Internet avec le mouvement 5 étoiles, parce que ça permettait de parler directement au peuple, je le mets bien entre guillemets, c'est-à-dire une certaine représentation figée d'un peuple qui serait homogène, alors qu'il n'y a pas de tel peuple qui existe qui soit homogène à proprement parler, c'est une fiction de l'esprit, et lui parler donc sans intermédiaire. Et le deuxième élément, je vous ai parlé de la démagogie cognitive, mais le deuxième élément, c'est les éléments à la fois contre-intuitifs narrativement et qui vont nous mener à l'indignation. Par exemple, tel fait divers, telle agression qui aurait été le fait de quelqu'un qui n'est pas français, par exemple sur le territoire français, va susciter une indignation particulière. Prenez les événements d'Annecy, par exemple, qui ont à juste titre suscité évidemment une stupeur. Mais évidemment, un des points qu'on a relevé, c'est que le porteur du couteau était syrien, était un réfugié. Donc évidemment, l'extrême droite s'est emparée de cela. Après, elle a été très désemparée lorsqu'elle a appris qu'il était chrétien, finalement, évidemment. Donc ça, ce sont des contre-pieds narratifs. Mais on sent bien que, et d'ailleurs, la presse en général se rend coupable de cela, parce que même des journaux comme Le Monde, qui ne traitaient pas les faits divers il y a encore quelques dizaines d'années, on va dire, se sont mis à donner une place toute particulière aux faits divers. Le fait divers, précisément, c'est quelque chose qui est là, qui est une histoire qui est censée être exemplaire et qui suscite avant tout une émotion.
Parce que alors que normalement elle est singulière et il faut la prendre comme telle.
Elle est singulière, il faut la prendre comme telle, je ne sais pas. Il y a des faits divers qui peuvent être considérés comme exemplaires, bien sûr. Mais en l'occurrence, ils peuvent donner lieu à des formes de généralisation, surtout quand ils s'emboîtent à des récits politiques. Or, l'indignation, la conflictualité, ce sont des passions tristes, comme on dit, qui vont être mises particulièrement en avant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très documenté par la science contemporaine. C'est aussi bien vrai en France, aux États-Unis qu'en Chine, puisque des collègues chinois ont montré que sur le Weibo, qui est le Twitter chinois, si vous voulez, les messages qui avaient le plus de viralité, c'était les messages qui étaient assortis de l'émoticône colère. Et lorsque Frances Haugen, qui était la donneuse d'alerte de Facebook, qui a fait le tour du monde, si vous voulez, que nous avions, dans la commission que j'ai présidée, auditionnée sur ce point, eh bien, elle nous a révélé que Facebook, pendant longtemps, a donné une prime de visibilité 5 fois supérieure au message qui était assorti de l'émoticône colère par rapport au simple like. Ça veut dire que c'est non seulement notre cerveau qui a une forme d'appétit pour les informations fondées sur la conflictualité et l'indignation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une vidéo qui va s'intituler « Tel homme politique se fait humilier par un tel » ou « Intellectuel se fait humilier par un tel » ou « C'est la lutte des clashs », c'est-à-dire que le clash est permanent, il suffit de l'observer. Ouais. Il y a une indignation toutes les deux jours sur Twitter, collective, j'entends. Et donc, on le voit bien, chacun qui pratique les réseaux sociaux voit bien que ce sont des réseaux hautement inflammables et que le carburant, si je puis dire, de tout cela, c'est la conflictualité, l'indignation.
On pourrait ajouter que Elon Musk a établi une nouvelle politique de référencement sur, sur Twitter, la petite virgule bleue qui vous référence. Par exemple, les journalistes l'ont perdu et il faut maintenant l'acheter. Et on peut imaginer, on peut remarquer même, que ceux qui l'achètent ne sont pas les plus modérés, ne sont pas les plus pondérateurs. Et donc, le like, plus le référencement, plus le petit émoticône colère, et plus la mécanique algorithmique fait que des messages, des propos les plus agressifs ou les plus scandaleux ou qui suscitent plus l'émotion que la raison sont plus puissants.
Oui, c'est ça le problème. L'histoire que nous sommes en train de vivre, c'est celle finalement de la rencontre entre le fonctionnement assez ancestral de notre cerveau et l'hypermodernité du monde de l'information. Et les deux, en quelque sorte, se donnent la main pour donner une audience particulière à la proposition politique populiste. Ce n'est pas les seuls qui bénéficient de cette dérégulation du marché de l'information, mais c'est incontestablement eux aussi, en politique, qui en bénéficient. De sorte qu'un peu partout dans le monde, il y a d'autres raisons, hein. Il y a la question de la mondialisation, le déclassement d'un certain nombre, notamment des classes moyennes, enfin, il y a toutes sortes de variables. Mais ces variables-là, en effet, elles ouvrent la porte à certaines propositions et même certaines aventures politiques. Et c'est tellement vrai qu'il y a quelques mois, dans la revue Nature, qui est une revue d'importance, eh bien, il y a une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse globale de tous les résultats sur 496 articles sur ces questions, et qui montre qu'incontestablement, la démocratie est menacée par les flux numériques à certains de ses aspects, notamment sur la question de la polarisation affective, dont bénéficie le populisme.
Et est-ce qu'on pourrait dire que les nouveaux leaders populistes sont les patrons de ces GAFAM qui, non seulement sont des patrons économiques, mais aussi maintenant ont des discours politiques, des discours globaux, des visions de l'humanité et de la société, des projets pour l'avenir?
Oui, alors c'est difficile de leur coller l'étiquette de néo-populistes dans la mesure où ils ont un discours politique incontestablement, ils ont un pouvoir. Sans avoir de légitimité politique, ils ont un pouvoir énorme qui est celui d'éditorialiser le monde de l'information en partie, ce qui est gigantesque. Ils le font plutôt avec leurs intérêts économiques, ceci dit en passant, qu'avec leurs valeurs politiques.
Elon Musk, patron de Twitter en 2022, traduit par Franck Olivard.
Il y a un bon signe pour savoir si la parole est libre. C'est quand quelqu'un que vous n'aimez pas a le droit de dire quelque chose que vous n'aimez pas. Si tel est le cas, nous avons la liberté d'expression. C'est vrai, c'est sacrément ennuyeux quand quelqu'un que vous n'aimez pas dit quelque chose que vous n'aimez pas. C'est pourtant le signe le plus sûr du fonctionnement sain de la liberté d'expression.
Gérald Brunner.
En réalité, l'intérêt économique d'une GAFAM, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur le réseau social ou sur la plateforme vidéo. Et c'est pour ça que les passions tristes, elles sont mises en avant, parce que précisément, ça hameçonne notre attention. Et leur business model, eux, c'est de convertir notre disponibilité mentale en capital économique, par le biais des publicités, tout simplement. Alors, ils ont un discours politique. Elon Musk, par exemple, peut avoir un discours très futuriste, progressiste, on va aller sur Mars, etc. Tout ça, c'est un discours, d'une certaine façon, politique. Je ne dirais pas qu'il est caractérisé par le néo-populisme.
Alors, il y a quand même un élément qu'on pourrait décrire comme étant contre-populiste avec les réseaux sociaux, c'est que les populistes parlent au nom du peuple. Souvent, ils parlent d'ailleurs de majorité silencieuse. C'est bien pratique parce que comme ça, ils peuvent parler à la place de cette majorité silencieuse qui, étant silencieuse, ne dit rien. Et donc, ils réinterprètent et ils parlent. Or, la vox populi, le peuple parle sur les réseaux sociaux et le peuple dit des choses différentes. Et on s'aperçoit avec les réseaux sociaux que finalement, il n'y a pas une unité du peuple en tant que peuple. Alors, est-ce que ça n'irait pas contre la progression du populisme?
Alors d'abord, certainement, vous avez raison, il faut se méfier de ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité, c'est-à-dire de prendre un groupe et croire que ce groupe est homogène, il veut quelque chose. Par exemple, lors des émeutes en France, qui, vous vous en souvenez, ont surgi au début du mois de juillet, on essayait d'analyser les émeutiers alors qu'ils avaient probablement des motivations très différentes dans ce groupe. Voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on appelle l'hypostase donc, d'un groupe. Hein. C'était le premier élément du populisme, hein, l'hypostase du peuple. Et alors, le plus grand danger, à mon avis, et qui est aussi très bien documenté, c'est surtout qu'on prenne des minorités pour la majorité. Parce qu'on sait qu'il y a sur les réseaux sociaux et dans le monde numérique en général, ce qu'on appelle des super users, c'est-à-dire des gens qui vont parler beaucoup, plus souvent que les autres. C'est une drôle de démocratie parce que certains votent 1000 fois tandis que d'autres ne votent jamais. Et on a par exemple pu établir que 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisaient 33% de l'information disponible. Ce qui fait qu'on peut prendre la visibilité de certains arguments pour de la représentativité et donc lui accorder une forme de légitimité politique. Ainsi, par exemple, les anti-vaccins, les vrais anti-vaccins, ne pèsent pas grand-chose en réalité. Ils sont peu nombreux. Je ne parle pas de la méfiance vaccinale, qui est trop importante. Mais les anti-vaccins militants sont très peu nombreux. Et on les retrouve justement beaucoup à l'extrême droite. Pas seulement, mais beaucoup à l'extrême droite. Et il se trouve qu'ils ne pèsent pas grand-chose, mais ils parlent beaucoup. Donc si on considérait que les traces numériques qu'ils laissent sont représentatives de l'opinion de la population française, on surestimerait beaucoup leur nombre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je déplore que les journalistes soient trop souvent sur Twitter, parce que je vois, excusez-moi de faire une petite attaque à votre profession, qui est par ailleurs essentielle pour la démocratie, justement, c'est pour ça que je m'inquiète de cela. Elle est trop fréquemment sur Twitter, elle se laisse trop imprégner de ce qui se passe sur Twitter, et donc souvent elle surestime des points de vue qui sont très minoritaires et radicaux en leur conférant une forme de représentativité. Ça, ce serait une forme étrange de populisme, justement, de prendre des minorités pour la majorité et donc pour l'expression du peuple.
La colère sourde de tous ces Français qui ont compris que le système ne marchait plus. Eh bien, ce qu'attend le peuple, c'est pas de reprendre les mêmes. Ce qu'attend le peuple, c'est le renouvellement.
Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien.
J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique.
Le système, c'est précisément tout ce qui est autour du parti. Pardon, Monsieur Macron et Monsieur Minc l'a dit d'ailleurs, dans une forme d'élan et d'aveu, c'est le meilleur candidat du système. C'est le candidat construit par le système.
Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies...
Qu'il est touchant ce nouveau cartel des noms. Écoutez-les, on appelait au peuple. Quel scandale. Comment disent-ils ? Quel populisme.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Dernier épisode de notre série disponible en podcast sur le populisme. Il y a un élément, un ingrédient du populisme dont on n'a pas encore parlé, c'est l'antisystème, une rhétorique utilisée par à peu près tout le monde et qui ne bénéficie au bout du compte qu'à l'extrême droite. Pour évoquer la tentation facile, mais aussi pour évoquer les raisons de fond pour lesquelles l'argumentaire antisystème fonctionne, nous retrouvons Martial Foucault, chercheur au CEVIPOF.
Le vote anti-système est un phénomène tout d'abord récent. Au cours des 20 dernières années, on a pu observer en Europe l'émergence de familles politiques rejetant à la fois le fonctionnement d'une démocratie représentative, au nom de deux principes. Le premier, ces institutions ne garantissent pas l'émergence de formations politiques et donc d'idées politiques autres que celles qui ont façonné les institutions. Et puis, deuxième principe de rejet, l'idée selon laquelle le peuple ne peut pas être pleinement représenté dans des institutions qui ont été élaborées pour préserver les intérêts d'une classe dominante. Et donc, l'émergence d'un vote anti-système va s'appuyer sur des relais, des mouvements politiques qui vont convaincre et séduire une partie des électeurs qu'aujourd'hui, leur voix ne peut pas être représentée, pleinement entendue dans des institutions telles qu'elles existent. Et donc, ce vote anti-système, c'est un vote anti-système politique. Et puis, là, il y a une grande variété de situations dans plusieurs pays, où l'antisystème, c'est le système économique, on pourrait rajouter le système culturel. De fil en aiguille, on voit bien que ce vote anti-système a agrégé l'ensemble d'une société qui est souvent schématisée entre les possédants et les non-possédants.
Mais quand vous parlez d'antisystème, vous ne parlez pas d'idéologie. C'est-à-dire que les deux grandes forces qui ont créé ces institutions, la social-démocratie et la démocratie chrétienne, le centre-droit et le centre-gauche, pour parler schématiquement, c'est pas ces forces-là qui sont contestées dans leur positionnement politique ou leur idéologie, c'est ce qu'elles ont fait de l'État, ce qu'elles ont fait du pouvoir.
Oui, parce que le vote anti-système, c'est une condamnation d'une forme de convergence des idées politiques de ces deux grandes familles politiques que vous avez citées, c'est-à-dire la social-démocratie et effectivement la démocratie chrétienne. C'est pas l'idée simplement de dire le vote anti-système c'est un rejet de la social-démocratie avec cette idée de l'égalité, d'une recherche de compromis sur du progrès social et puis pour la démocratie chrétienne assurer un certain nombre de valeurs autour de l'autorité, de la stabilité politique. Non, c'est la condamnation que quand ces deux familles politiques, et partout en Europe, ont exercé le pouvoir, les différences sont devenues trop minces. Il y a une condamnation de ce qu'on appelle cette oligarchie politique.
Et donc, c'est que négatif, c'est anti-système, oui. Et pourquoi? Parce que dans votre description, on ne sent pas poindre l'extrême droite ou l'extrême gauche.
Du côté de l'offre, des leaders, des mouvements politiques qui sont nés et qui ont prospéré sur l'antisystème, c'est vraiment une condamnation d'un pouvoir accaparé par, non pas des idéologies, mais par un système politique qui s'entretient, un esprit de système. Alors, si je prends un exemple très concret, dans le cas de l'Allemagne, l'alternance du pouvoir entre la gauche, le SPD, et puis la droite, la CDU, on voit bien que dans un système parlementaire allemand, cette question, elle est consubstantielle du régime et du système électoral, du régime politique, c'est-à-dire on essaie de construire des coalitions. Dans des pays où on n'a pas cette tradition ou cette culture politique, comme la France, on agite ou on active un autre ressort, disant droite et gauche, et souvenons-nous des discours dans les années 90 et début des années 2000, quand l'expression UMPS s'est bien installée, cette idée qu'il n'y a pas de différence entre...
Avec la bande des quatre de Jean-Marie Le Pen, PS, PC, UDF, RPR.
Exactement.
Alors, on vient de voir que la défiance est un des moteurs du vote anti-système et donc nourrit le populisme. Dans votre livre, il y a deux autres moteurs, la colère et la peur.
Alors, c'est une avancée qui renvoie à un certain nombre de controverses et de polémiques au cours des années 2010-2020, lorsque un certain nombre de leaders populistes vont accéder au pouvoir, que ce soit en Italie avec le mouvement 5 étoiles, que ce soit Donald Trump, et également UKIP à travers le référendum Brexit en juin 2016.
Oui, on dit qu'ils ont joué avec la peur, voilà. Ils ont joué sur nos peurs.
On a une vieille tradition
cartésienne,
sociologie électorale qui consiste à dire on peut objectiver la condition des individus, votre sexe, votre âge, votre niveau d'éducation, votre condition sociale, votre lieu de résidence, et bon an, mal an, on saura dans quelle direction votre vote se portera. Et on a écarté un ensemble de dimensions subjectives, comme la confiance qu'on vient d'évoquer, la satisfaction de la vie. Moi, j'ai décidé d'aller un peu plus loin sur ces éléments plus subjectifs et donc autour des affects, des passions, et voir comment l'électeur était traversé par des émotions liées à des événements politiques. Et donc, c'est important de le situer parce qu'il y a quand même parfois des oppositions. On dit, oulala, mais le vote, c'est une affaire suffisamment sérieuse. Les émotions ne viennent pas perturber l'électeur au moment où il se rend dans l'isoloir. Bon, mais je pense qu'on a tort de raisonner comme ça. Et c'est pas dire qu'il faut mettre de côté tout ce que l'on sait sur...
Alors, est-ce qu'on a tort parce que les idéologies ont moins d'importance, les grands schémas, les grandes grilles de lecture ont moins d'importance depuis la disparition des blocs du communisme et des grandes explications globales, et donc nos avis politiques seraient plus comme un petit bouchon sur l'eau, facteur de l'actualité ?
Moi, j'arrive à la conclusion qu'il ne faut pas opposer la subjectivité à l'objectivité dans le choix d'un vote. Au contraire, c'est parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris au sérieux le poids des affects et des passions que nous avions des grilles de lecture qui ne devenaient plus opérantes pour comprendre des phénomènes comme l'élection de Trump, le Brexit, voire même l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. En revanche, quand on combine ces deux dimensions, on découvre des choses très intéressantes. On a entendu, après l'élection de Trump, des observateurs nous dire de façon assez certaine, presque benoîtement, que c'est très simple de comprendre l'élection de Trump. Ce sont tous ces Américains qui avaient peur des menaces qui pesaient sur la société dans son ensemble, mais aussi sur leur propre vie. On construisait cette société totalement anxiogène. En fait, nos travaux montrent que la peur n'explique en rien le vote populiste.
Là, vous cassez une évidence pour beaucoup.
Mais disons que ça implique de comprendre qu'est-ce qu'on entend par peur, et nous, on oppose la peur à la colère.
Et vous prenez un exemple assez explicite, 2017, l'élection après une série d'attentats.
Oui.
C'est pas la peur d'être visé contre des attentats qui fait monter Marine Le Pen, c'est plutôt la colère, c'est ça ?
Absolument. Là, si vous voulez, il y a deux mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre pour distinguer la peur et la colère, c'est très simple. Quand vous êtes traversé de peur ou d'anxiété, vous vous retrouvez dans une situation où un choc vient de se produire. Il faut qu'il y ait un choc. Ça produit un renversement de la compréhension du monde qui nous entoure. Cela vous conduit à deux choses très simples. Premièrement, vous voulez comprendre. Et pour comprendre, vous vous mettez dans une situation où vous êtes prêt à réviser vos propres croyances sur la compréhension du monde. Vous cherchez des ressources pour éviter que ce qui s'est produit d'improbable ne se reproduise plus. Donc la peur, elle produit un moment où les gens ont besoin de s'informer, vont discuter. Donc on produit de la confiance sociale. Vous voyez, les éléments sont liés. Et vous allez essayer de trouver l'offre politique qui vous donne des garanties, des assurances pour qu'un tel choc ne se reproduise pas. Après les attentats de 2015, on avait été frappé de voir le nombre de ventes d'ouvrages sur le djihadisme a totalement explosé en France.
C'est-à-dire une soif de s'informer de façon rationnelle.
Oui, besoin de comprendre. Voilà, ouais. Besoin de comprendre. Quand vous êtes traversé par la colère, le mécanisme psychologique est radicalement différent. Vous n'êtes plus dans cet état d'esprit de vouloir comprendre. Vous estimez que vous avez déjà investi beaucoup trop de ressources par le passé pour comprendre, et à chaque fois, vous n'avez pas eu une réponse adaptée, et donc l'impossible s'est produit. Donc quand vous êtes traversé par la colère, vous n'êtes plus dans un mécanisme où vous êtes prêt à réviser vos propres croyances.
Donc vous êtes plus perméable à des réponses très simples.
Vous voulez une réponse, immédiate et la plus radicale. La réponse d'un peuple en colère, c'est de choisir la voie la plus polarisante. L'idée que les populistes veulent renverser la table. Des citoyens en colère veulent effectivement que la table soit renversée. Et donc, on ne peut pas comprendre le vote Trump, le vote Brexit ou le vote Marine Le Pen, simplement en disant « ce sont des électeurs qui ont peur des menaces à venir ». Non, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, ce que l'on montre, c'est que la peur, elle produit plutôt du statu quo. Elle produit même, je dirais presque, du conservatisme.
Enquête de politique sur France Inter.
Qui rêve encore de l'Amérique? Ce shopping mall pas démocratique. Tout est si différent maintenant. Mais qui peut encore rêver tout court quand tout est flippant aux alentours? Patiemment la fin du monde. liberté d'être condamné. Après ces années de culpabilité, agissons enfin sans conséquence. Salut patron, on se verra en vacances. Tout est si différent maintenant. En attendant, bien patiemment, la fin du monde. La fin du monde, la fin de nous. C'est nous les nouveaux dinosaures. On finira au musée dans un décor. Et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre. Et qui attend bien patiemment la fin de son ère. 2, 3, 4.
Nouveau dinosaure par Séverin. Dernier épisode d'Enquête de politique, réalisation Christophe Imbert, aux archives sonores Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin et pour cette série d'émissions, merci à notre stagiaire Lila Dessin, à la technique aujourd'hui, Alexandre Chenet. Comment éviter la vague populiste où il est question de peur et de colère?
La question est de faire en sorte que les citoyens, oublions le peuple, pardonnez-moi cette expression, mais les citoyens n'ont plus besoin de cette forme intermédiaire de représentation. Ils ont la possibilité, en termes de rationalité et non pas d'émotion, comme on veut sans cesse le dire de nos jours, en justifiant les émotions chez Ruffin, chez Mélenchon, partout, c'est l'émotion qui prime. Les citoyens français sont doués de rationalité.
Pierre Birenbaum, historien des idées politiques contemporaines.
Revenons un peu à Habermas, revenons à la grande tradition rationaliste du XIXe siècle, revenons à Bentham, revenons à Rousseau, revenons à Hannah Arendt. Tout de même, on a besoin de rationalité et de voir en sorte que les citoyens, quelle que soit leur culture, musulmane, juive, catholique, n'importe laquelle, sont doués tous de rationalité, sont tous appelés à une culture et à comprendre et à juger. Et ils n'ont pas besoin, de nos jours en tout cas, ils ont moins besoin de nos jours, de formes intermédiaires, de grands représentants aussi extraordinaires que le soient-ils, comme Victor Hugo, ou à d'autres niveaux peut-être, comme M. Mélenchon, je pense, ou M. Trump, c'est-à-dire que non aux porte-parole. Plus de porte-parole, plus de dictateurs, plus de leaders, des formes d'entrée dans la vie collective à travers une citoyenneté active, à travers une rationalité qui repousse l'émotion. Bien sûr qu'il y a de l'émotion, mais cette émotion, elle doit être canalisée au maximum. Abolissons ce silence en aidant la prise de parole.
Mais la prise de parole, elle est là, avec Internet, les réseaux sociaux.
Oui.
Et on ne peut pas dire que cette prise de parole multiple avantage la rationalité, si.
Oublions là encore les réseaux sociaux. Revenons, pardonnez-moi, aux partis politiques, aux syndicats, aux groupes d'associations, à la vie associative locale, extrêmement puissante, aux clubs de joueurs de boules, aux clubs de pétanque, aux clubs philatélistes, à travers lesquels passent des formes de sociabilité, des formes de rencontres et d'élaboration d'une pensée commune qui est porteuse de valeurs et qui conduit à des formes d'engagement politique, elles aussi. C'est là, au fond, que se trouve la source de la sociabilité, de l'engagement, et on n'a pas besoin de ces formes émotives et d'un grand représentant qui parle à un peuple muet. Non, le peuple n'est pas muet, et il n'a pas besoin de tribun.
Ce qui me paraît, finalement, peut-être aujourd'hui assez rassurant.
Perrine Simon-Naoun, historienne, professeure au département de philosophie de l'École normale supérieure, Ulm.
C'est que l'opinion publique s'est éduquée politiquement et je crois que il serait assez difficile, par exemple, en France aujourd'hui, de faire croire à l'ensemble de l'opinion publique qu'elle représente un corps unique. Je crois que nos citoyens ont bien conscience de former des groupes dont les intérêts sont divergents, dont l'histoire est divergente. Et finalement, c'est peut-être ça qui pourrait philosophiquement constituer un rempart contre l'arrivée du populisme.
Oui, mais Perrine Simon-Naoum, quand vous dites que le populisme peut être le résultat d'une crise de la médiation, d'une crise de la représentation, on est bien obligé constater qu'il y a cette crise, il faut bien la traiter, et qu'il y a un moment où peut-être les médiateurs, la presse est souvent critiquée, les élus sont souvent critiqués, peut-être que les médiateurs, les raffineurs de l'opinion publique, des colères publiques, ne sont plus à la hauteur, quelquefois ils peuvent vivre pour eux-mêmes, ne plus être à l'écoute et ne plus représenter la base. Est-ce qu'il ne faut pas quelquefois un moment populisme ?
Non, je ne crois pas. Il est très difficile de revenir en arrière une fois qu'on a expérimenté le populisme, parce que, comme je vous l'ai dit, l'un des caractères du populisme, c'est de changer de l'intérieur les institutions. Et on le voit très bien aujourd'hui dans des régimes comme la Hongrie ou la Pologne, le Fidesz en Hongrie et Droit et Justice en Pologne, le PiS, qui sont des régimes qui sont arrivés au pouvoir de façon légale, électorale, et qui, une fois au pouvoir, ont pratiqué ce qu'on a vu apparaître depuis une dizaine d'années dans les régimes populistes, qui est ce que les constitutionnalistes appellent un légalisme discriminant. C'est-à-dire que on laisse l'apparence de la démocratie et en même temps on promulgue des lois qui sont discriminatoires contre certaines catégories de population. Et donc une fois que ces lois sont votées, il est très difficile de revenir en arrière.
Et on mine tout.
Et on mine la démocratie, on mine les fondements de la démocratie.
On mine tous les outils de contre-pouvoir et de limitation.
Bien sûr,
du
on
pouvoir.
Voit ça à travers les attaques qui sont portées contre les cours constitutionnelles, par exemple. Contre les médias, les médias en Hongrie, ou contre la mémoire, contre l'histoire.
Je renvoie nos auditeurs à un épisode d'Enquête de politique que nous avons consacré à l'illibéralisme, ce terme qui recouvre un peu ce que vous venez de dire. Perrine Simon-Naoum, vous avez, vous, une recommandation, vous la formulez dans votre dernier livre, Sagesse du politique, le devenir des démocraties, aux éditions de l'Observatoire. Vous avez une solution ?
Non, je n'ai pas vraiment de solution, mais j'ai, mon idée, ce serait que aujourd'hui, on le voit bien en France, par exemple, il ne suffit pas de dire qu'on va réformer les institutions, ou il ne suffit pas de dire qu'on va en appeler aux valeurs, aux principes fondamentaux des démocraties. En réalité, ce qu'il faut faire comprendre, je crois, à nos concitoyens, c'est qu'il faudrait que nous changions de regard envers les démocraties. Finalement, nous ne savons pas très bien ce que c'est que le populisme, mais nous ne savons pas très bien ce que c'est que la démocratie. Notamment, nous avons habillé la démocratie d'habits beaucoup trop grands pour elle depuis 1945, en la confondant avec la croissance, avec la mondialisation. La mondialisation avait porté une ambition supérieure qui était finalement de former comme ça une humanité qui serait cultivée, qui recevrait finalement les fruits de ce à quoi elle a droit. Ce qui est très différent de ce que peuvent penser Montesquieu ou Tocqueville. C'est-à-dire que nous, nous fonctionnons en pensant que, et pour des raisons historiques, parce que l'État-providence est né pendant la Seconde Guerre mondiale, nous pensons que nous avons droit à un certain nombre de choses. Or, la démocratie, c'est pas ça. Je veux dire, la démocratie, ça n'est pas l'égalité économique qui ne sera jamais atteinte, ça n'est pas le bien-être économique, ça n'est plus la croissance, nous sommes en période de contrainte budgétaire. Donc l'idée, c'est de changer le regard sur la démocratie et de savoir ce que nous pouvons lui demander. Et de constater que dans notre quotidien, vous et moi, nous faisons chaque jour des expériences démocratiques.
Alors juste avant que vous nous parliez des expériences démocratiques, parce que c'est intéressant, quand même, je voudrais revenir sur cette idée des droits et de la démocratie. Par exemple, la démocratie sociale, issue du CNR en France, mais dans beaucoup d'autres pays, de l'État-providence qui a formé nos sociétés depuis 1945. Il faut oublier cet aspect-là. Il faut revenir à une conception de la démocratie beaucoup moins importante, beaucoup moins ambitieuse.
Il faut revenir à une définition de la démocratie qui corresponde à un état historique. Et il est évident que la période que nous vivons aujourd'hui n'est plus celle de 1945. Il faut surtout concevoir la démocratie comme un régime politique qui est un régime de conflit et qui n'est pas un régime de consensus.
Mais de méthode compromis, de, quand même.
De compromis, bien sûr. Et donc, ce sont sur ces méthodes d'accord, finalement, collectif, qui dépassent les intérêts individuels, sur lesquels il faut travailler. D'une certaine façon, ces accords ne sont jamais acquis. Ils doivent être rediscutés en permanence, avec ces fondements de valeurs qui sont des valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté. Il ne s'agit absolument pas, évidemment, de remettre ceci en cause, mais de ne pas demander à la démocratie plus qu'elle ne peut donner. Parce qu'à force de faire ça, finalement, on la délégitime. On arrive à des régimes populistes parce que 38% de nos concitoyens pensaient il y a 2 ans que finalement, ce serait très bien d'avoir un chef d'État autoritaire. Et je pense qu'un certain nombre d'entre eux vont se dire, bah, en 2027, pourquoi pas tenter l'aventure.
Et Perrine Simon, vous appelez à un autre regard.
Alors cet autre regard, vous l'avez dit vous-même, c'est hélas un regard beaucoup plus modeste, c'est vrai. C'est l'idée que nous faisons, nous donc, des expériences démocratiques à notre échelle, une échelle modeste, une échelle individuelle, une échelle le long de nos vies. En fait, ce que nous faisons dans nos vies apparaît d'une certaine façon opposée à ce que nous réclamons de nos régimes politiques démocratiques. Par exemple, dans nos vies, nous aimons prendre notre temps, réfléchir avant de prendre des décisions, discuter, échanger avec les autres, voire même bénéficier du temps du repentir si nous avons envie de changer de cap. Donc tous les jours, dans vos échanges avec vos proches, avec votre famille, dans le milieu professionnel, vous faites des expériences démocratiques. Vous préférez le débat à la violence. Je dirais que c'est un petit peu à cette échelle modeste que nous devrions retrouver l'amour de la démocratie en comprenant que ce que les populistes, que ce soit de droite comme de gauche, ce dont ils accusent aujourd'hui les démocraties, ce qu'ils dénoncent comme les faiblesses des démocraties, notamment, on l'a vu pendant la pandémie de Covid, ou lorsqu'ils demandent
ou d'hésiter,
voilà, une transparence absolue, ou ben non. Vous préférez quand même avoir une vie privée. Peut-être que vous préférez garder certaines choses secrètes et ne pas les exposer devant la place publique. Donc si vous voulez, ce serait avoir une sorte de vécu quotidien de la démocratie que nous transposerions ensuite à un niveau plus général ou plus collectif.
Non seulement je préfère avoir une vie privée, non seulement je préfère pouvoir tâtonner, hésiter, non seulement je préfère pouvoir même changer d'avis, mais je peux faire tout ça parce que je suis en démocratie.
Absolument. Vous
donc,
seriez en Chine,
vous nous,
ce ne serait pas possible.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de demander à la démocratie ce qu'on ne voudrait pas pour nous. Et surtout, quand on demande tout ce qu'on demande, ou ce que les populistes demandent à la démocratie, c'est en fait de se dénaturer, de dénaturer la démocratie.
Absolument. On demande à la démocratie d'être un régime d'exception. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Moi, j'étais extrêmement choquée d'entendre des gens m'expliquer que la Chine avait beaucoup mieux su répondre aux problèmes de la pandémie que nous. La seule chose qu'ils ont oublié, c'est que la Chine a tué des centaines de milliers de gens. Donc, effectivement, peut-être que les démocraties ont failli sur un certain plan. Elles n'ont pas été assez efficaces. Il y aura des procédures à revoir. Il faudra surtout expliquer, je pense, mieux les choses. En même temps, la démocratie a besoin de gouvernants qui fassent des choix, qui prennent des décisions, quitte à ensuite, et ça c'est ce sur quoi nous devons travailler, et je pense que c'est le message que nos gouvernements doivent entendre, à venir en rendre compte devant les populations en expliquant les choses.
Les démocraties ont fait le choix de la vie, mais elles ont édicté des interdits, elles ont obligé à la vaccination. Alors est-ce qu'elles ont agi démocratiquement? Est-ce qu'elles ont produit un glissement autoritaire peut-être nécessaire et temporaire?
Alors vous pointez du doigt une difficulté de la démocratie. La démocratie est confrontée à des défis, et l'un des plus grands défis, et nous en voyons l'expression à travers la pandémie de 2020, c'est précisément la difficulté de la démocratie à répondre à l'urgence. Ce sont des mécanismes, des procédures sur lesquelles il faut réfléchir pour savoir comment informer en amont les populations, comment expliquer en aval. Maintenant, ce sont des choses sur lesquelles on avait réfléchi dès l'épidémie du H1N1 dans les années 2010. Et il y a toujours un moment où il faut décider. Et le choix est compliqué. Face à une pandémie, par exemple, l'une des questions qu'on s'était posées, c'était de savoir s'il fallait vacciner tout le monde ou s'il fallait vacciner d'abord les médecins qui seraient, eux, en charge ensuite de sauver une partie de la population. C'est un choix politique et je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui à la manière dont on peut exposer ce type de problématique à des populations qui n'en sont peut-être pas conscientes ou peut-être pas informées.
Comment éviter le populisme ? Peut-être d'abord en évitant de le stigmatiser. Montrer du doigt le populisme serait comme reprocher à la douleur de nous prévenir de l'infection. C'est notre démocratie qui serait malade, notre démocratie représentative. Pour la soigner, pourquoi ne pas prendre exemple sur la Suisse et sa démocratie directe ? La démocratie directe, le plus possible, c'est ce que propose Antoine Chollet. Et vous allez voir que sa critique de la critique du populisme a de quoi bouleverser les quelques certitudes acquises à l'écoute de ces quatre émissions. Antoine Chollet, chercheur en pensée politique, c'est un beau titre, à l'université de Lausanne. Lausanne, c'est là que je suis allé à sa rencontre. Antoine Chollet, on est ici en Suisse, à Lausanne, dans le pays du populisme. Alors c'est étonnant parce que pour nous, Français, le populisme, c'est le tumulte, l'extrémisme, le bruit, la fureur, pour reprendre les termes de Jean-Luc Mélenchon. Et non, on est dans le pays du calme, de la pondération. Dans le pays du populisme, vraiment, Antoine Chollet ?
Alors ça dépend de la définition que l'on donne du populisme, évidemment. Si c'est la définition classique, la définition habituelle aujourd'hui, c'est-à-dire des mouvements d'extrême droite, des mouvements protestataires, la Suisse est une forme de laboratoire du populisme début des années 90, notamment autour du dossier européen. Et si on en donne la définition historique, la définition issue notamment de l'histoire américaine du 19e siècle, la Suisse est aussi une forme d'origine du populisme, puisque les populistes américains se sont beaucoup inspirés des procédures, notamment des procédures de démocratie directe que l'on connaît en Suisse, le référendum, l'initiative, avec l'idée qu'il s'agit de démocratiser la démocratie.
C'est une définition qui diffère effectivement de la définition classique française parce qu'il n'y a pas l'homme providentiel. C'est un populisme acéphale, sans tête, dites-vous.
Et c'est ce qui le distingue évidemment de ce que l'on qualifie la plupart du temps de populisme aujourd'hui, puisque généralement on a en effet un leader charismatique, qu'il s'agisse de Chavez, qu'il s'agisse de Donald Trump ou de Nigel Farage.
Vu de Suisse, nous sommes donc à Lausanne, vous défendez le modèle suisse, mais vous critiquez l'acception française du mot populiste. Et pas simplement l'acception, mais la logique politique qui sous-tend cette critique et cette utilisation du mot politique. Le titre de votre livre est d'ailleurs explicite, « L'antipopulisme ou la nouvelle haine de la démocratie ».
C'est une transformation du terme qui intervient depuis 20-30 ans à peu près, alors dans laquelle la science politique française a une certaine responsabilité, mais elle n'est pas seule en cause. On a la même transformation en Angleterre ou en Allemagne, et où, sous prétexte de lutter contre ces mouvements, on a fait comme si, en réalité, toutes les oppositions au système se valaient. Et autre point vraiment très important à mon sens, c'est que l'idée de qualifier des mouvements d'extrême droite de pro-populaires, parce que c'est ce qui est en arrière-plan dans le terme de populisme, donc de faire comme si l'extrême droite parlait effectivement du peuple au peuple et avait une politique populaire, c'est véritablement leur faire un trop beau cadeau, puisqu'on sait que dans l'histoire politique européenne, en tout cas, l'extrême droite n'a jamais été pour les classes populaires. Enfin, à chaque fois que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, les classes populaires se sont pris des législations extrêmement violentes dans la figure, que ce soit en Italie, en Allemagne ou même en Hongrie aujourd'hui. Et donc l'idée que l'extrême droite serait un mouvement populaire est un contresens politique total. Derrière ce terme de populisme, c'est comme si on prenait au mot les leaders d'extrême droite et en disant ben, prenons leur discours, écoutons ce qu'ils ont à dire et en réalité ils nous donneraient la vérité. Le cas Trump est absolument paradigmatique de ce point de vue-là puisqu'il a prétendu au moment de son inauguration qu'il rendait le pouvoir au peuple. On a vu en 4 ans ce qui s'est véritablement passé.
Alors je voudrais que vous commentiez cette petite phrase de vous-même que j'aime bien, la totalité
méthodologie et le schéma logique fondamental des études sur le populisme.
Alors c'est très frappant quand on lit les livres sur le populisme, parce qu'on commence avec une liste. Donc voilà, on parle de Trump, Mélanie, Orban, Mélenchon, Tsipras, etc. Et puis ensuite, on fabrique une définition, et miraculeusement, on trouve que la définition recouvre tous ces cas. Donc c'est véritablement un beau cas de tautologie, en oubliant deux choses. C'est que, premièrement, la liste n'est pas composée de briquet de broc, c'est-à-dire qu'on dit les personnes qui sont qualifiées de populistes aujourd'hui sont celles-ci. Quand on forme une définition, c'est pas comme ça qu'on procède. On essaie déjà de trouver un certain nombre de catégories pour construire son concept. Et puis le deuxième problème, c'est que les définitions du populisme qui sont trouvées, souvent, pourraient désigner d'autres mouvements également, y compris des partis tout à fait installés. Et donc, on fait comme si la définition correspondait bien aux cas qui ont été identifiés au départ, alors qu'en réalité, elle est à la fois trop large et trop étroite.
Oui, parce que vous dites, par exemple, quand on parle de mensonges, de démagogie, de négation du clivage gauche-droite, de culte du chef, de l'opposition peuple-élite, c'est finalement des notions qui sont assez partagées dans la classe politique.
La négation du clivage gauche-droite, c'est quelque chose qu'on peut trouver chez Macron, c'est quelque chose qu'on peut trouver chez quantité de leaders aujourd'hui, de la même manière que des méthodes démagogiques de campagne. Enfin, c'est un peu le béaba de la politique représentative, disons.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une constante ? L'opposition peuple-élite.
Mais disons, l'opposition entre peuple-élite, vous pouvez lire tous les grands textes de l'histoire de la pensée politique qui parlent de démocratie, ça peut être Machiavel, ça peut être Thomas Paine, ça peut être quantité ou Rousseau ou d'autres. Vous allez trouver ce type d'opposition. Donc l'idée que ça qualifierait un ensemble de personnes ou de positions politiques qui devraient être absolument éliminées me semble un peu exagérée, disons. Ensuite, en effet, tout dépend ce que l'on met derrière les termes de peuple et d'élite. Mais on le voit aussi chez quantité d'acteurs ou d'actrices politiques. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est un discours de Nathalie Arthaud, donc la candidate lutte ouvrière en France, je crois que c'était pendant la campagne 2017, où elle avait tenu des propos qu'on qualifierait, si l'on prend les définitions du populisme, c'était vraiment l'archétype du populisme. Et la grande différence, à mon sens, c'est que Nathalie Arthaud ne fait pas 20 ou 25% des voix, mais elle en fait un nombre totalement résiduel et absolument pas menaçant. Donc ce qu'il faut ajouter, c'est que généralement, les mouvements qui sont qualifiés de populistes, encore une fois, à mon sens, faussement, sont des mouvements qui menacent les partis en place sur leur terrain même, c'est-à-dire le terrain des élections. Et on l'a vu avec Trump, évidemment, on l'a vu avec les partisans du Brexit en Grande-Bretagne, on le voit avec Marine Le Pen aujourd'hui en France, on le voit avec Mélanie, avec d'autres mouvements. C'est-à-dire que ce sont des mouvements politiques qui arrivent à se battre avec succès sur le terrain des élections. Ce qui n'est pas le cas de petits partis comme Lutte ouvrière ou des partis qui, en réalité, ont un discours qui n'est pas très différent du discours que l'on peut trouver dans la bouche des prétendus populistes.
Le populisme, nous n'avons certainement pas fait le tour de la question, certes, mais il est des sujets qui se complexifient à mesure qu'on les dissèque. C'est souvent le cas en politique, c'est pour ça que c'est passionnant et toujours vivant. Rendez-vous samedi prochain pour un autre isme. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.